Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Rabolio, de Maurice Genevoix, lu par l'auteur. C'est un des romans les plus célèbres de l'écrivain Maurice Genevoix, né en 1890 dans la Nièvre, mort à Alicante en 1980. Rabolio a reçu le prix Goncourt en 1925. Maurice Genevoix, romancier-poète, héritier du réalisme, parle d'une époque révolue mais pas si lointaine, le 19e siècle, où vivre de la nature, y trouver de quoi se nourrir, semblait encore possible à quelques indomptés. Mais justement, le braconnier Rabolio, heureux de cette liberté, vécue aux dépens de l'ordre, suscite la jalousie d'un autre qui va s'acharner à le perdre. Rabolio décide de se venger, et il n'y a pas de happy end à ce roman paysan. Nous allons écouter un passage de ce livre dit par l'auteur Maurice Genevoix, où apparaît le personnage de Rabolio. Des pages imprégnées d'un vocabulaire de la Sologne où s'exprime dans la verve naturelle de son modèle son amour de la vie sauvage et de sa liberté.
Veuillez écouter Rabolio, une émission de Maurice Genevoix de l'Académie française, présentée par Pierre Lost.
Le garde-chasse Tournefière, dit Bonne Jean, au service du comte de Remilleret, s'est rendu au petit matin à l'étang de la Sauvagère. Comme chaque automne, une équipe de Sologniaux pêche l'étang sous la surveillance du fermier général Tancogne.
Les mains derrière le dos, le vieux Tancogne allait et venait. Ses yeux avaient des sautes rapides, dardaient de brefs regards auxquels rien n'échappait. Et de sa voix rêche, trouée par le catarrhe, il lançait des ordres aussitôt obéis. « Mettez, disait-il tout à coup. C'était quelques gardons venus des rivières voisines, du Beuvron ou du canal. Jetez. Et c'était des vairons, verts et tigrés de noir, des épinoches hérissées de piquants, négligeables fretins, vermine d'eau douce. L'eau de l'étang presque tarie n'arrivait plus qu'à peine dans le ruisseau. Les joncs, les prêles, depuis 2 jours inclinés par sa force, se redressaient avec des froissements insensibles. De chaque côté du bouche-branc apaisé, ils reprenaient leur frisée monotone, abandonnés enfin de ce fort tremblement qui les avait secoués au long d'une lutte interminable. Par intervalles, dans le courant, quelque chose débouchait tout à coup. Cela venait du conduit souterrain, gonflait l'eau d'un remous vivant, alors un homme courait, s'en épuisait au poing, il fouillait à tâtons, se redressait soudain, arquant l'échine, du geste d'un tâcheron qui soulève une pelletée de terre. Et dans l'épuisette émergente se débattait une carpe monstrueuse, à soubresauts pesants et mous. Il y avait ainsi dans chaque étang tout un troupeau de bêtes énormes, vouées à la production des alevins. On les reprenait chaque année en les dénombrant avec soin. Elles attendaient dans des bassins le retour des journées tièdes, l'instant de revenir pour la ponte et la fécondation dans les frayères aux fonds herbus. « À l'étang, » dit Tancogne. L'équipe des pêcheurs franchit la digue, descendit dans la Sauvagère. L'eau ne coulait même plus entre les plages de sable et de boue. Seules des ornières sinueuses marquaient encore la trace de son passage. Mais le cours du bouche-branc apparaissait bien mieux dans cette étendue grise et morne. Il venait de là-bas vers le sud, contournait au milieu de l'étang une île ovale bordée de petites zones en boule, enfin gagnait l'abonde où il disparaissait. C'était là que les carpes étaient venues se rassembler. L'eau par endroits était si peu profonde que les reins des bêtes émergeaient, se pressaient côte à côte dans un moutonnement confus et l'on cherchait des yeux le chien de ce troupeau. De temps en temps, l'une d'elles trouvait la tranchée du bouche-branc. Elle remontait alors d'une nage forcenée, fonçant du nez, ouvrant la vase comme un soc. On ne voyait plus d'elle que son sillage désordonné et parfois sa nageoire dorsale sombre et molle, large comme une main. Les hommes de nouveau barbotaient, fouillant de l'épuisette à même la pesante cohue. Les manches des filets surchargés pliaient. Au choc des queues claquantes comme des battoirs, la boue jaillissait en fusée, projetait sur les visages des taches sombres qui durcissaient en croûte. La plupart de ces carpes pesaient une dizaine de kilos. Chaque année, malgré l'accoutumance, les pêcheurs s'étonnaient de les revoir plus épaisses encore qu'ils ne se les rappelaient. Ils les allongeaient dans des caisses de bois, côte à côte. Trois ou quatre d'entre elles en garnissaient le large fond. Elles restaient là, le corps inerte, clapant de leurs grosses lèvres rondes, bourrelées de peau blanche et charnue. Les écailles de leurs flancs luisaient comme des plaques de métal. Elles soulevaient leurs joues sur leurs ouïes sanguinolentes, d'un mouvement rythmique et doux. À force de bouleverser l'eau stagnante, de piétiner dans le même cercle, les hommes faisaient naître autour d'eux un marécage de boue liquide où leurs regards ne distinguaient plus rien. Souvent, leurs filets tâtonnants butaient à faux sur les corps des poissons, ils les poursuivaient au hasard, les soulevaient quelquefois à demi, basculant sur le cadre de fer et replongeant dans un bloc au milieu d'une gerbe brune. Souvent aussi, ils chancelaient, saisis aux jambes par l'étreinte de la boue. L'un d'eux même, tout à coup, heurta en reculant l'un des deux petits murs qui s'écartaient à partir de la bonde, battit l'air de ses bras, tomba dans l'eau à la renverse. Il reparut, gluant, aveuglé par la vase, et il toussait, s'ébrouait, crachait parmi les rires puissants des autres. « Eh ben, Beurlésier, l'eau est bonne. T'avais soif, faut croire, vieil ami. » Bottereau, dit Beurlésier, s'était mis à rire lui aussi. Il était de nature débonnaire, de muscles vigoureux et lents. Bûcheron dans les bois de Sologne, abatteur de chênes et de pins, il travaillait de ça, de là, à l'embauche, suivait les batteries en été, et l'hiver tendait des collets. C'était l'hiver qu'il préférait, ses joies hasardeuses et rudes, mais profitables. Il n'était pas le seul entre les pêcheurs de Tancogne. Créquine le savait bien, qui tant de fois avait fait équipe avec lui par les nuits noires épaulant le fusil, tandis que Beurlésier agitait le grelot et promenait par chaumes et labours le faisceau clair de la lanterne. Une rude langue il avait, ce Créquine, au battant solidement accroché. Cela surprenait davantage parmi ces hommes taciturnes et méfiants. On l'avait baptisé Sarcelotte, peut-être à cause de son caquetage aux sonorités nasillardes, plutôt à cause d'un flair particulier à ce chasseur de sauvagines, des colverts et des sarcelles qui hantent les roseaux des étangs. Tous ces hommes d'ailleurs, petits tenanciers, braquos, journaliers, parmi lesquels se recrutait une main-d'œuvre occasionnelle, avaient ainsi leur sobriquet, leur sornette, comme on dit en Sologne. Vola, le grand Vola sec et blafard, aux yeux enfoncés creux sous un front dur comme caillou, on l'appelait par dernière Malcourtois. Il s'attachait à lui un peu de la peur instinctive qui rendait muet Créquine lui-même à l'approche du fermier général. Vola était un des métayers de Tancogne et son homme à tout faire, son espion. Chacun s'en doutait. Familier, oui, blagueur même à l'occasion, mais plus encore que ses rogues manières, on redoutait la bonhomie pateline dont il s'accoutrait quelquefois. Si malin que fût le grand Vola, on reniflait à son entour un relent de traîtrise qui invitait à la prudence. Un putois a beau être fin, il n'est pas libre de ne pas puer. Tout en pêchant, il guettait des oreilles et des yeux. C'était quand il tournait le dos, quand il semblait distrait, absent, qu'il épiait au contraire avec la plus vive acuité. Et cela se sentait, étrangement. Plusieurs fois déjà, Sarcelotte l'avait interpellé. « Eh, Vola ! « Surveille tes oreilles !» Elle remue. Malcourtois haussait les épaules et ne daignait même pas répondre. Le Sarcelotte, malgré son œil finot entre les paupières clignées, avait plus de gueule que de vis. Lui, Vola le barrerait, quand il voudrait. C'était un autre qui l'inquiétait, qu'il surveillait intensément, bien qu'il ne le regardât jamais. Cet autre-là, on ne l'appelait que Rabolio, à tel point qu'on avait oublié le nom de ses pères et mères, qui étaient Fouques. Et jusqu'à son nom de baptême, qui était Pierre. Sa mère elle-même, la vieille Montaigne, sa femme Sandrine, ne l'appelait que Rabolio, une sornette qui était sienne depuis toujours, depuis les premiers mois de sa vie. Déjà futé, remuant, le corps fin, l'œil vif et noir. C'était bien vrai qu'il ressemblait à un lapin de rabolière, à un rabolio bienvenu de lignée sauvage et dru, la proie sauvage, bête de bois. Les broussailles étaient son domaine, les ronces épineuses où il se coulait à l'aise, les longues friches où foisonnent les bruyères, et les couverts de grands genêts qui le cachaient debout tout entier. Braconnier, parbleu, comme tout le monde l'est en Sologne, comme l'était défunt son père avant de finir, tristement, des suites d'un mauvais coup de pied qu'il avait reçu dans le ventre. La vieille Montaigne, ulcérée par ce souvenir, s'épouvantait maintenant pour son garçon. Sandrine aussi pleurait souvent. Les damnées femmes allaient les empêcher de geindre. Ce n'est qu'une gêne qui pèse sur le cœur, jusqu'à l'angoisse d'abord, et soudain jusqu'à la colère, avec ses mots et ses gestes violents. Si les femmes ne peuvent pas se tenir de pleurer, est-ce que les hommes sont maîtres de cet instinct qui les pousse vers la chasse ? Fils d'une terre giboyeuse où craillent le soir les faisans qui se branchent, où rappellent les perdrix dans les chaumes, où les lapins par bandes sortent des bois à l'assaut des récoltes. Et si quelques hommes, plus riches, accaparent le droit à la chasse, s'ils défendent leurs droits avec l'appui des lois, des gardes qu'ils paient et qu'ils arment, des gendarmes en uniforme, des policiers habiles à se grimer, est-ce qu'il n'est pas d'autres lois plus anciennes, qu'on chercherait en vain dans les codes, mais que les gars de Sologne connaissent bien, puisqu'ils les sentent vivre en eux, dès que le poil leur pousse sous le nez, dès qu'ils éprouvent la chaleur de leur sang. Rabolio lui aussi travaillait à l'embauche. Tout ch'ti qu'il était d'apparence, avec ses mains de femme, si petites qu'elles l'humiliaient, sa cognée frappait juste et raide au pied des arbres qu'elle besognait. Avec un art fleuri d'aisance, il prélevait au pied la débouture, le tronçon de souche dure que l'usage reconnaît au bûcheron de Sologne. Il l'allongeait, tranquille, à la mesure qu'il s'était fixé, selon sa loi et ses besoins, de quoi chauffer sa maison l'hiver, et celle de la vieille Montaigne, et celle de Touraille, son beau-père. Tant mieux, n'est-ce pas, s'il en restait encore, assez pour faire quelques monnaies, juste le prix des cartouches nécessaires. Aujourd'hui, il pêchait pour le compte de Tancogne. C'était des journées assez rudes, pour que le vieil avare fût obligé de les bien payer, un travail plaisant, une riche occasion de s'instruire. Depuis 3 jours qu'il promenait ses guêtres sur les terres de Monsieur le Comte, Rabolio s'était bien gardé de tenir ses yeux dans sa poche. Oh, comme ça, sans en avoir l'air. On repère les grillages en bonne place, on capte d'un regard sûr, comme d'un coup de filet, les renseignements utiles qui viennent à vous de toutes parts, qui montent des labours et des friches, des étangs, des prés et des bois. Rabolio, sans fatigue, accroissait sa richesse. Ce n'était pas une richesse consciente d'elle-même, un amas ordonné dont il put dresser l'inventaire. À sa mémoire toute sensorielle, il aurait demandé vainement des souvenirs décantés et limpides, quelque chose comme un plan des terres qu'il s'était annexé. Ses yeux, son nez, ses mains se rappelleraient pour lui, ses jambes, qui par endroits avaient foncé dans le sable cendreux, glissé dans une coulée de glaise, raclé les épines des ronciers, son corps, sans cesse vigilant, et la mémoire fidèle de son corps. « À toi celle-là, Rabolio !» Les autres s'amusaient de son adresse infaillible. Debout au bord du marécage, ils avaient fini par interrompre leur besogne, par reposer leurs bras sur leurs épuisettes inutiles, et ils regardaient Rabolio. Lui marchait prudemment, l'avenio incliné. Ses yeux, dans la flaque de vase trouble, percevaient le moindre remous, le moindre frisson vivant. Ses genoux immergés tâtonnaient, palpaient les frémissements de l'eau, et tout à coup ses mains partaient, décochaient un geste vif, ramenaient une bête captive. Il n'en manquait jamais une seule. Chaque fois qu'une carpe était prise, il l'attendait dans la poche de filet, à bout de manche, vers l'un des hommes qui l'entouraient. « Empoigne, Berlaisier, gros feignant, porte celle-là, Sarcelotte, et cause pas en route avec elle !» Il riait, content de cette adresse dont il donnait le franc spectacle, content surtout d'autres choses, cachées, qui rayonnaient au-dedans de lui, pour lui seul, et qui lui dilataient le cœur. « Hé, Malcourtois, je t'offre la prochaine !» Il était content, Rabolio. Le coup d'œil en coin de Vola l'avait chatouillé de bien-être. Il l'avait appelé Malcourtois droit en face, ce grand cadavre. Hop là, en avant les bras, une carpe encore, et pas la plus mince. Il l'attendait vers le grand Vola, le considérait de bas en haut, avec une lueur dansante au fond des yeux. et il songeait plein d'allégresse. Ne te gêne plus, mon gars, regarde encore, arreuille-toi bien, la récolte est faite, engrangée. Ah, vieille pratique, ça n'est pas encore toi qui passeras, Rabolio.
Vous venez d'entendre Rabolio, une émission de Maurice Genevoix de l'Académie française, présentée par Pierre Lost.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 octobre 1959.
J'en rêve la nuit.